Et justement, on a cette image que le forgeron, bah, il est dans son antre, il est tout noir, il est bourru, c'est un ours, il a des bras gros comme des cuisses, des bracelets en cuir autour des bras, et un tablier dégueu, mais aujourd'hui, c'est accessible vraiment à tout le monde. Parce que il y a beaucoup de techniques. On n'a pas besoin d'être nécessairement un gros bras, comme on peut se l'imaginer, pour forger. Alors, donc, je m'appelle Emmanuel Fernex, j'ai 29 ans et je suis aujourd'hui ferronnier d'art.
Plus 2 cm.
Devant, oui, au milieu devant, plus 2. Qu'au milieu devant. Ensuite, la ligne.
Les professions de l'art et de l'artisanat sont obligées de s'adapter à un monde qui change. Et le monde qui change, il change beaucoup vers le numérique. Et pour moi, c'est pas parce qu'on est dans un métier de tradition manuelle, par exemple, ou de tradition tout court, de transmission des savoirs, etc., qu'on ne doit pas évoluer, innover. Donc, je m'appelle Claire Brandin, je suis corsetière sur mesure, c'est-à-dire je fais de la corseterie, du corset et de la lingerie, du sous-vêtement féminin. Je donne des cours de design textile à la Faculté des Arts, option design, à Strasbourg, mais j'anime aussi des stages et des formations à l'atelier.
Évidemment, aujourd'hui, il y a Internet et YouTube, hein, avec des tutos en tout genre. Pour les épées que j'ai réalisées, je ne le cache pas que un petit tour sur YouTube, un petit coup d'œil dans un livre, un petit conseil d'un copain coutelier, et puis après, on allume le feu, on chauffe le fer, on tape et on voit ce que ça donne, quoi. Sachant que les techniques de forge, c'est les mêmes qu'il y a des... Les techniques essentielles de base de forge sont les mêmes qu'il y a des milliers d'années. C'est un des plus vieux métiers du monde. On a l'enclume, on a un marteau, donc la forme a évolué, le principe est toujours le même. Donc quand c'est chaud, il faut une pince, donc les pinces, il faut qu'elles soient légères, maniables, mais c'est toujours la même forme de pince depuis toujours. En France, en tout cas, la forge, la ferronnerie en général, c'est extrêmement perdu. Le métier de forgeron, avant, chaque village, chaque ferme, alors surtout en Alsace, hein, mais dans d'autres régions, c'était la même chose, il y avait le même besoin. Chaque corps de ferme avait une forge, et dans chaque village, il y avait un forgeron qui était compétent et qui avait un apprenti ou deux, et qui réalisait. Donc parce que, en fait, le forgeron, avant, il était mécanicien, il était constructeur, il était. Tout ce qui touche de près ou de loin au métal, ça passait par le forgeron. Aujourd'hui, ça s'est scindé en plusieurs métiers. Il y a le maréchal ferrant, il y a le mécanicien, il y a le métallier, le ferronnier, le chaudronnier, etc. Il n'y a pas si longtemps, c'était le forgeron.
Le métier est tout à fait différent d'à l'époque. Le cheval était utilisé pour avoir du travail, pour cultiver les champs, etc. Donc c'était un métier totalement utile et indispensable. Maintenant, c'est que les cavaliers, on va dire, de loisirs. Je m'appelle Caroline Raillé et je suis salière bourrelière sur Barre. J'ai 26 ans et ça fait à peu près 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Mes deux points forts, c'est la réparation, parce qu'il y a peu de personnes qui réparent et tout ce qui est décathlon, etc., ben, la réparation. Il n'y a pas où ça coûte aussi cher que d'acheter du neuf, donc c'est vite vu. Et après, tout ce qui est adaptation de la selle à la morphologie des chevaux, ça c'est vraiment le plus que personne ne fait, apparemment en Alsace. Donc. Alors déjà, les selles, j'en fabrique pas, parce qu'il y a bien assez sur le marché de la selle. C'est, on va dire, il faut plus de machines industrielles pour pouvoir amincir les cuirs ou les découper ou ce genre de choses, pour arriver à des prix corrects, on va dire. On se rend compte qu'un cheval, ça change toute l'année de morphologie. En été, ils grossissent un peu parce que c'est la bonne saison. Et en hiver, ils perdent un peu de poids parce qu'ils sont, bah, c'est l'hiver, il fait froid, il faut se réchauffer, etc. Donc faire une selle, on va dire, fixe, avec un arçon fixe. Donc le garçon, c'est le cœur de la selle. L'arçon fixe, c'est un arçon où on ne peut pas changer l'ouverture au niveau des épaules. Faire des selles avec des arçons fixes, on peut difficilement changer. Sur un cheval qui bouge toute l'année, c'est pas dans ma vision des choses. Donc je préférais pas faire de selle. Et voir et faire avec ce qu'il y a sur le marché de la selle où il y a effectivement des arçons qui sont interchangeables ou ce genre de choses.
L'ouverture de l'encolure qui est encore. Il faut refermer un peu cette encolure.
Qu'il faut savoir respecter la respiration, le confort, l'intimité. Et du coup, en lingerie, on est aussi très proche de ça. Mais aussi éventuellement le corps et ses souffrances. Parce que quand on porte un corset, parfois, on peut avoir envie de le porter pour soulager le dos. Et en lingerie, il y a parfois aussi ce parcours-là. Dans ma clientèle de femmes qui ont du mal à trouver des choses qui conviennent dans le prêt-à-porter à une morphologie un peu atypique, par exemple, ou qui ont un volume de poitrine important et donc ça génère des douleurs à cause du maintien des épaules, ou alors elles ont subi une opération due à un cancer du sein, elles ont des cicatrices. C'est à moi d'entendre chez ma cliente ce besoin, ce rêve, et de faire en sorte, grâce à ma technique et à mes outils et à mon écoute, de répondre à son besoin. Moi, ce que je propose, c'est vraiment une lingerie sur mesure, parce que la cliente ne va pas trouver dans l'industrie quelque chose qui répond à ses besoins.
La broderie, c'est tout ce qui est filet, bridon, sangle, protection, licol, reine, collier de chasse, enfin, je vois toute la liste, mais il y a de quoi faire, quoi. Donc ça, je suis en fabrication sur mesure et personnalisable. Donc on peut choisir la couleur de son cuir, la couleur de son fil, la couleur de la doublure, enfin, toutes les fantaisies possibles. Et moi, j'ai fait le choix en tant qu'artisan de me démarquer sur la qualité et l'esthétique, de faire quelque chose de très personnalisé, avec une qualité au top, quoi, avec des cuirs résistants, des coutures main, qui sont très différentes des coutures machines qui souvent lâchent assez rapidement. Donc voilà, c'est tout des gages de qualité que je mets en avant et que j'arrive à faire comprendre aussi à mes clients que c'est pas le même prix, c'est qu'il y a une raison. Parce que mon but, c'est de faire du service aux clients personnalisé. Je veux dire, je vais pas commencer à faire de la série ou ce genre de choses qui, effectivement, en industrie, avec des machines industrielles, est le but, quoi.
À mon échelle, j'arrive à trouver un marché parce que je travaille essentiellement avec des particuliers qui ont un besoin. Donc c'est comme dit, hein, soit un portail, soit une rampe dans leur maison, soit un escalier. Mais à l'échelle industrielle, c'est des pièces qui sont insignifiantes. Une grosse entreprise qui vend des marchés, des appels d'offres, ils sont en fait très peu intéressés, enfin, de manière générale, assez peu intéressés avec les clients particuliers qui veulent leur objet sur mesure. Et donc, c'est là que moi, j'arrive à trouver une demande, puisque je réponds à quelque chose que les plus grandes entreprises sont parfois embêtées de répondre. Et moi, vu que je suis seul, un portail, c'est tout de suite une à deux semaines de boulot, ce qui est tout à fait intéressant. J'entends beaucoup ça, parce que j'ai demandé à un tel, donc il cite les quelques entreprises de ferronnerie, métallerie de la région qui sont beaucoup plus gros, et souvent ils n'ont pas de réponse, ou des prix complètement explosés et qui ne conviennent pas du tout à un particulier. Et moi, quand je propose des prix qui sont tout à fait corrects pour moi, qui me permettent de vivre, et ben souvent ça convient très bien pour tout le monde, quoi. Alors heureusement, en Alsace, on a encore il y a une demande, c'est pas le cas dans toutes les régions, pour avoir discuté avec d'autres artisans ou d'autres particuliers, il y a une demande pour le travail de l'artisan. Faire son portail, on peut le trouver chez les bricololos en tout genre, on a des portails à quelques centaines d'euros, mais évidemment c'est pas du tout la même qualité. Et je remarque qu'il y a quand même des gens qui s'en rendent compte. Je parle des clients, des particuliers, qui se rendent compte de cette qualité. Bon, après, c'est très bien, si les gens ont un budget bricololo, moi, j'ai aucun souci, hein. Mais il y a quand même cet appel de travailler avec l'artisan, travailler avec des matières nobles, matériaux nobles, de manière un peu plus costaud, un peu plus solide, un peu plus pérenne et durable, quoi. Donc, pour l'instant, en Alsace, je pense que c'est un bon endroit pour exercer ce genre d'activité.
Au Au départ, donc, j'étais à Paris, ensuite à Strasbourg et après à Bar. J'ai développé toute mon activité, c'est-à-dire tout l'apprentissage de mon savoir-faire. Enfin, non, parce qu'on continue à apprendre toute sa vie, hein, mais disons la base de, de l'apprentissage de mon savoir-faire à Paris. Et c'était très bien parce que c'était un lieu où il y a énormément de choses, énormément de personnes. Et pour apprendre, ben forcément, la capitale, c'est un lieu formidable. Par contre, au bout de 10 ans, la ville m'a étouffée. Elle m'a étouffée parce qu'il y a tellement justement de stimulation, de diversité qu'on peut vite se perdre si on ne s'est pas d'abord centré sur ce qu'on veut vraiment faire. Donc je suis partie de Paris beaucoup pour ces raisons-là. Je suis venue vivre à Strasbourg où j'avais fait mes études en tant qu'enfant parce que je m'y sentais bien. Pendant très longtemps, ça me convenait bien, mais j'ai eu des enfants. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le rythme d'un créateur, d'une créatrice d'entreprise avec des enfants était aussi difficile. Je voulais passer plus de temps avec mes enfants. J'avais déjà assez bien développé mon activité à Strasbourg et je cherchais à me rapprocher d'un rythme de vie plus calme et plus proche de la nature pour mes enfants, mais aussi pour moi. À Bar, il y a une gare, il y a la montagne, l'autoroute n'est pas très loin et donc ça correspondait beaucoup à mes critères. Et en même temps, c'est quand même une petite ville, c'est-à-dire qu'on trouve quand même tout ce dont on a besoin, mais c'est quand même très proche de la nature. C'est un mélange entre ville et village pour moi. Je me suis rendu compte en faisant l'étude de ma clientèle que ma clientèle était majoritairement Centre-Alsace, c'est-à-dire que les gens se déplaçaient déjà pour venir à Strasbourg. Et les personnes qui venaient en formation venaient parfois à Strasbourg, mais parfois beaucoup plus loin. Donc pour les gens qui étaient basés sur Strasbourg, venir à Bar, c'était pas trop loin. Pour les gens qui étaient en Centre-Alsace, venir à Bar, c'était parfait. Et pour les gens qui venaient de plus loin, ça ne changeait pas grand-chose, voire ça simplifiait les choses. Parce que pour des gens qui viennent en formation présentielle, qui doivent déjà payer le déplacement, qui doivent payer un logement sur Strasbourg, c'est beaucoup plus cher que de venir se loger à Bar. Non seulement je n'ai pas perdu de clientèle, mais en plus j'ai développé ma clientèle. Et moi, j'ai gagné en qualité de vie, ma famille et mes enfants aussi. Donc en fait, j'ai tout gagné en venant ici.
Bah, j'ai vécu en Alsace toute mon enfance. Comme je savais que le marché du cellier Bourrelli était en plein déclin, je me suis dit c'est le moment de reprendre et c'est le moment de me lancer. Je veux dire, je vois le nombre de chevaux qui est en Alsace et j'en découvre de plus en plus à chaque fois, hein, dans des endroits cachés, etc. Mais je me rends compte qu'il y a énormément de chevaux en Alsace, qu'il y a de quoi faire, mais qu'il n'y a quasiment pas de Bourrelli, enfin cellier Bourrelli quoi. Je connais un qui part à la retraite, je connais une autre dame qui s'est installée en même temps que moi dans le Haut-Rhin, c'est tout quoi. Donc 2 ou 3 personnes pour toute l'Alsace, c'est pas... Voilà, il y a de la place pour tout le monde, clairement. Après, c'est juste une question voilà, de se faire connaître et de savoir que j'existe, qu'on peut faire ses réparations chez moi, ou me demander des conseils, ou ce genre de choses, quoi. C'est la petite chose difficile.
Ah, il y a beaucoup de... C'est pour ça, l'Alsace a vraiment une tradition encore de métallerie fer forgé, parce qu'il y a plusieurs entreprises, des PME et, comme on dit, petites et moyennes. Je ne pourrais pas les citer, il y en a trop. Il y en a vraiment beaucoup. Mais vu qu'il y a de la demande, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Sachant que les entreprises plus grosses d'Alsace exportent aussi beaucoup à l'étranger. Et puis des petits artisans comme moi, j'en connais quelques-uns. Donc, dans l'immédiat autour de moi, j'en connais 3-4 qui sont... C'est pas du tout des concurrents, c'est vraiment plutôt des collègues, certains que je travaille assez étroitement avec, soit pour un coup de main, soit parfois j'ai un chantier trop imposant ou trop pressé que le faire seul, soit c'est trop difficile, soit ça prendrait trop de temps. J'ai toujours la possibilité éventuellement d'appeler un collègue qui est aussi installé à son compte, et à ce moment-là on peut travailler ensemble sur certains chantiers.
Correct. Après, il suffit qu'on change une fois la matière, ça change un peu.
C'est ça. Ouais.
Donc, ça, il faudra que je sois très vigilante, c'est bien que je le voie, puisque je bosse sur l'été. Alors.
Il n'y a pour moi pas de concurrence du tout entre les clients qui viennent en sur-mesure et les personnes qui viennent en formation. Les personnes qui viennent en formation, elles ont une démarche différente. Soit elles sont dans une démarche de faire pour elles-mêmes, ce qui n'est pas la même démarche que la clientèle qui vient avoir un produit fini, en fait. Ou alors, ce sont des futurs professionnels. C'est des personnes qui sont déjà en entreprise ou qui veulent monter une entreprise individuelle, ou qui veulent développer une compétence complémentaire, qui veulent devenir corsetier. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns, ou qui veulent acquérir un savoir-faire de sur-mesure sur le corset parce que c'est de plus en plus demandé en mariage, et qui veulent se former en tant que professionnel. Dans ce cas-là, on peut se dire « je forme la concurrence ». Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Déjà parce que pour moi, c'est un vrai créneau. Ça me permet d'avoir une activité rentable. Et en plus, je n'estime pas former la concurrence parce que tout simplement, je ne peux pas servir tout le monde parce que j'ai aussi la clientèle frontalière. J'ai une limite de volume horaire que j'accepte de faire. Les clientes qui viennent chez moi ne viennent pas chez moi par hasard. Si elles viennent chez moi, c'est qu'elles ont trouvé quelque chose qui correspond à leurs besoins. Et ça va faire que ça s'accroche. Si ça ne s'accroche pas avec moi, c'est pas parce que la concurrente est meilleure que moi, c'est parce que la collègue apporte quelque chose de différent. Moi, je n'ai pas besoin de développer plus, puisque mon activité est rentable, j'ai besoin de développer juste. Donc, du coup, quand je forme quelqu'un, je pars du principe que je vais lui donner la capacité de développer le meilleur d'elle-même pour qu'elle, elle développe une clientèle que de toute façon, moi, je ne développerai pas. Je n'ai pas fait le choix de ne faire que de la lingerie sur mesure parce que je pense que ça n'est pas rentable. J'ai par exemple constaté autour de moi, parce que je connais beaucoup de collègues qui font de la corsetterie sur mesure, de la lingerie sur mesure, que celles qui font le choix de faire exclusivement de la corsetterie sur mesure ou de la lingerie sur mesure, même en étant meilleur ouvrier de France, etc., ne sont pas rentables ou ont beaucoup de mal à l'être et travaillent beaucoup trop et sont en souffrance au travail. Donc je pense que dans ce domaine-là, c'est un constat personnel, ça n'est pas possible d'être rentable en étant exclusivement dans un domaine aussi petit.
J'arrive actuellement à vivre uniquement de mon métier. Et ça, c'est parce qu'au sein de mon métier, je me diversifie. En touchant à l'utilitaire, au décoratif, aux petits objets, aux objets plus gros, je fais aussi pas mal de mobilier, ça m'arrive aussi. Il y a un spectre assez large de possibilités de travailler avec le métal pour satisfaire ma petite personne et remplir les heures et remplir le compte en banque et le garde-manger.
Peut-être les erreurs que j'ai faites seraient de penser que les clients allaient tomber du ciel. Donc je me suis bien rendu compte que ça marchait pas comme ça. Et la deuxième, peut-être commencer avec un petit... mettre un peu d'argent de côté pour pas démarrer de 0-0 comme moi j'ai pu faire. Parce que c'est un peu un cercle vicieux. Il faut des commandes pour pouvoir ramener de l'argent et acheter de la matière première. Mais si on n'a pas de matière première, on peut pas faire des commandes. Où il fallait que je décroche des contrats, mais oui, mais j'arrive à l'argent. donc voilà, économiser un petit peu pour avoir un minimum de cuir, de boucles. Le plus dur, c'est d'être seul et de devoir tout faire soi-même. Quelqu'un qui se sent pas de faire en même temps la compta, en même temps la communication, la relation client, plus encore travailler, etc., ça risque d'être très compliqué de travailler seul. Alors dans ce cas-là, autant trouver un poste chez un autre cellier, le temps de se faire déjà la main, de savoir comment répondre aux clients, comment, pourquoi, où et machin, et après peut-être se lancer.
Pour ma part, vu que j'ai vraiment commencé à une échelle tout petite, c'est-à-dire juste moi, sans gros investissements. J'étais en autofinancement, quoi. J'ai pas fait appel aux banques. Il n'y avait pas grand risque. Il n'y avait pas de problème majeur. La clientèle est venue au fur et à mesure. Mais j'avais une option. J'avais un petit plan parachute qui m'a bien aidé à démarrer. Et qui est en fait toujours en activité. Au moment où je me suis installé, il y a une entreprise dont je connaissais le patron. Et on s'est vu sur un salon. Il aurait bien voulu m'embaucher. Il avait un peu suivi mon parcours. Mais moi, je lui ai dit, par contre, je vais ouvrir mon atelier. Je n'ai pas prévu d'être embauché dans les prochains temps. Mais on a réussi à trouver un système qui nous va tous les deux. C'est-à-dire que je travaille chez lui. Donc ça, c'est depuis le début. Donc ça fait 4 ans. Je travaille... Alors au début, c'était 3 jours par semaine. Et maintenant, on est sur 2 jours, 1 ou 2 jours. Et donc, il me donne du travail. Maintenant, il a moins de boulot. Il me dit, Manu... reste à ton atelier, Si moi j'en ai pas assez, je lui demande si lui il en a plus. En gros, j'ai 2 jours de boulot garantis par semaine, toute l'année. Et éventuellement, comme il a des machines que moi j'ai pas, vu qu'il est beaucoup plus gros, ils sont une dizaine de personnes. Parfois, je fais découper une tôle ou un morceau de ferraille que je pourrais pas faire découper chez moi. En fait, j'ai pas de temps mort, puisque mes temps morts sont, grâce à ce partenariat, j'ai toujours quelque chose à faire. Ça serait peut-être un peu plus dur, en tout cas pour le début, ça aurait été plus dur sans. Maintenant, vu que en 3-4 ans, le bouche-à-oreille est quand même se constitue de mieux en mieux, il y a un certain confort à savoir que 2 jours par semaine sont remplis. J'ai juste à y aller, c'est du travail que j'ai pas à chercher. C'était clair pour moi, archi clair, que après la formation de forge, et en fait la formation de forge c'était pour ça, c'était pour ouvrir mon propre atelier. C'était pour être mon propre patron. Je dirais pas dès le début, mais assez vite, même en apprentissage, je me suis dit que tôt ou tard, je ne resterais pas ouvrier toute la vie. Je ne voulais pas devenir super riche, je ne voulais pas être super connu, mais c'était clair que d'une manière ou d'une autre, je voulais avoir mon propre atelier et je ne regrette pas du tout. Après, tout dépend du désir des gens, mais à partir du moment où ça dépend de la taille qu'ils veulent avoir, s'ils veulent tout de suite commencer avec une grosse entreprise, j'espère qu'ils ont un bon background en management, parce que ça peut être assez vite compliqué, mais un petit atelier comme à la taille d'une personne, il ne faut pas grand-chose finalement. S'équiper avec le matériel de base, une forge, une enclume, quelques marteaux, des pinces, de l'électroportatif de base, une perceuse, et je pense que ça c'est déjà suffisant pour... comme dit, avec les statuts aujourd'hui, c'est devenu assez facile de s'enregistrer comme professionnel. Donc, il y a vraiment tout qui est adapté selon le cadre qu'on veut avoir. Après, il n'y a plus qu'à se lancer, quoi.